La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
Microcosme Murmure d'une cité est une recherche création, un working progress du groupe artistique Les Allumeurs, de la web radio sensible et politique La Fontanelle et du média L'Insatiable, l'art principe actif. Elle s'est inventée en 2020 dans la cité Émile Dubois à Aubervilliers. Quand la ville est transformée, souvent on détruit. Derrière la démolition d'appartements parfois vétustes, il y a des histoires, des vies, un tissu de rencontres et de cultures, des souvenirs. Rendre audible et visible la vie des habitantes et habitants sur les transformations de leur quartier, comprendre les mécanismes d'aménagement urbain, rencontrer les associations et acteurs locaux, explorer l'histoire des banlieues et de l'immigration, écouter et recueillir des traces de ce qui se vit et se fait, tout cela a constitué la première étape du projet Microcosme qui a donné lieu à une édition. Nous poursuivons cette recherche-création en vous proposant, à partir de mai 2021 et tous les premiers mercredis du mois, un portrait d'habitante ou d'habitant de la cité Émile Dubois.
Moi, je me demande quelle sera l'analyse que feront les archéologues de l'an 3000, par exemple, qui, après un cataclysme ou après une disparition d'une population dans un endroit sous prétexte d'économie, de guerre ou peut-être climatique, que verront les archéologues, principalement des infrastructures, les routes, ils verront éventuellement des objets construits déliés les uns des autres, et ils comprendront peut-être qu'il y en avait qui étaient affectés au logement, d'autres au travail, d'autres au loisir, et donc je pense qu'ils retiendront de nous une société disloquée et peut-être pas une société vivant en harmonie démocratique. Je considère criminogène. Je pense qu'on est dans une société criminogène. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous préparer à être soit un travailleur de l'industrie, soit un travailleur, un employé aliéné, une machine, un robot, quoi. On est déconnecté de la vie.
Patrick Bouchard, architecte et urbaniste, introduit cet épisode dédié au logement social. Pour cette mise en perspective de la rénovation urbaine, parfois destruction, parfois réhabilitation, vous entendrez également le responsable des politiques urbaines de l'Office public de l'habitat, Tristan Lindemper, une chargée d'émission, Sarah Boujardine, et une chef de projet, Yelena Perret, de l'unité territoriale de la rénovation urbaine d'Aubervilliers, pleine commune, ainsi que 8 habitantes et habitants des cités Émile Dubois et La Maladrerie.
Donc, moi je lâcherai tout, je décentraliserai tout et je donnerai la liberté que la démocratie réclame. Et ça, pour moi, c'est d'urbanisme. Tout le reste, c'est pas d'urbanisme. Tout le reste, c'est de la planification. Et toute la planification, elle l'a révélé dans tous les pays socialistes, les pays totalitaires, ça ne marche jamais. Et ce qui est planifié arrive rarement. Donc, ça va, on a des exemples. C'est pas la peine de tester encore une fois. L'urbanisme a fait croire qu'il était capable de regarder, mais surtout de projeter. Et on s'est aperçu, si vous voulez, que cette projection ne correspond pas à ce qui est attendu, tout au moins le temps de réalisation de ce qui est projeté est un temps tellement long que souvent, quand la chose se fait, elle ne correspond plus à l'attente. On a construit des logements sociaux en urgence. Il y avait un retard en matière de logement, déjà avant-guerre, à cause de la guerre, et après, à cause de la démographie du baby-boom, et ensuite à cause de la démographie liée à la décolonisation. Donc il y avait un retard, donc il fallait construire massivement du logement. Et après on a vu quand même, dès la crise pétrolière de 1974, des problèmes de coûts d'entretien, de coûts de chauffage, une construction mal faite qu'il fallait donc très vite réparer. Moi, je fais avec ce que j'ai, donc je ne porte pas de jugement sur le passé, peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement, il fallait y aller massivement et tout. Et puisque ça existe, alors on pourrait dire que toute société, elle fait des erreurs, mais elle les répare, et ne les annule pas. Là, c'est la première fois où on dira, bah, puisqu'on s'est trompé, on détruit.
C'est pourquoi on a cherché à Aubervilliers. On a obtenu un appartement privé, avenue des Ponceaux, où on s'est installé en 2005. Ensuite, comme on est à la retraite, on trouvait les loyers un peu trop chers. On a fait la demande d'obtenir un HLM. On a attendu donc 9 ans jusqu'en 2014, où on nous a attribué un logement sur 3 rue Émile Dubois dans un nouvel immeuble où on était très très contents. Surtout, bon, on a en 2 pièces, mais on a un balcon. On était très contents donc d'avoir ce balcon et où j'ai pu faire mes fleurs, passer un bon moment en été où lorsque ma famille venait, on s'asseyait là-bas pour discuter. C'est très sympathique et surtout c'est un espace qui est ouvert sur un jardin, on n'a aucun bruit. Donc on était très très contents de s'y installer.
Moi, la maladrerie, j'ai demandé à habiter à la maladrerie par rapport à la verdure, par rapport aux terrasses, par rapport à ça aussi.
Ça, 1980,
on a vécu à Bondy pendant 2 ans.
On a vécu à Bondy dans du privé et l'appartement était trop petit, insalubre. Enfin, il y avait des infiltrations. Enfin, c'était épouvantable pour la santé de ma fille.
Et la chance, je te coupe, ouais. Et la chance qu'on a eue, c'est que j'avais fait une demande d'appartement avant de partir à Nancy, et on a refait la même demande en rentrant. Donc ce qui fait que mon frère ayant accéléré, puisqu'il avait un petit pouvoir au niveau de Mme Naju, enfin, à l'époque à l'OPHLM, on a réussi à avoir l'appartement en 2 mois.
Ouais.
On a fait notre demande et on l'a eu tout de suite.
82, oui.
Donc on est arrivé ici le 15 mars, exactement, le 15 mars 82.
Depuis.
Et on a emménagé depuis, donc on est ici.
Donc est-ce que quand vous êtes arrivé ici, même si c'était les années 80 et que ça faisait donc plusieurs décennies que cette cité existait, est-ce que c'était un plus?
Non, c'était un moins pour nous parce que
alors expliquez-nous
nous étions.
Ça.
Bah nous, parce que nous on est de Nancy.
On a toujours eu de très beaux appartements.
On est de Nancy, voilà, donc on avait un super appart à Nancy et à Metz. Ensuite, on est arrivé à Bondy.
Aussi, Aulnay-sous-Bois, c'était HLM, mais c'était le 20% patronal et les appartements étaient très beaux là-bas. C'était. Ensuite, on est allé à Nancy, où on a eu dans le privé un appartement qui était magnifique, ancien, enfin bref, on était en plein centre-ville. Et puis, non, ça n'a pas été quelque chose.
Non, c'est parce qu'on a refait notre appartement.
Parce que mon mari a été très malade, il a fait une dépression nerveuse très grave. Et moi, je ne travaillais pas encore à l'époque, ma fille était petite. Et non, ça n'a pas été vraiment... Moi, quand je suis arrivée ici, je ne me plaisais pas. Hein. Pendant des années, je ne me plaisais pas. Mais la seule chance qu'on ait eue, c'est qu'il y a eu une réhabilitation très vite.
Oui, 84.
On est arrivé dans les années 84, donc ils nous ont refait, agrandi l'appartement, fait une terrasse extérieure, un balcon. Donc ça nous a agrémenté un peu, mais...
En 2007, se pose la question d'intervenir un peu de manière massive sur la maladrerie, alors qu'elle a été finie de construire à peu près 15 ans avant. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes de bâti et de fonctionnement du quartier très importants, alors qu'on a les prêts pour des ensembles comme ça peut être des prêts sur 30 ans. Quoi. Donc on n'avait même pas fini de payer la moitié. Et on se posait la question de savoir comment intervenir pour gérer ce patrimoine.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah, ou si tu le perçois comme ça, mais...
Je suis assez d'accord avec toi. Après, quand tu disais qu'il y a parfois de bonnes raisons de démolir, plus que réhabiliter, c'est vrai aussi. Enfin, quand on se rend compte que certains logements sont en fait très mal isolés, pas forcément de très bonnes factures, on ne va pas réhabiliter un patrimoine qui, en fait... Enfin, où il n'y a pas d'accessibilité, pas d'ascenseur, pas d'adressage sur rue, dans le cadre urbain qui crée une barrière, une frontière. Enfin, en fait, parfois, il y a aussi beaucoup de raisons techniques qui viennent s'ajouter, enfin, qui constituent une bonne raison, finalement, de démolir, plutôt que réhabiliter et qui coûterait parfois plus cher à réhabiliter.
Et pas que technique, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui, qu'en fait, on peut comprendre... Enfin, je veux dire, il faut voir effectivement l'état de certains logements où il y a zéro isolation, des factures énergétiques énormes, des conditions de vie, enfin, aucune isolation sonore...
Et c'est pour ça que je vois beaucoup les défauts des constructions actuelles, par contre. Mmh, mmh. Maintenant, on veut faire pas cher, avec de la main d'œuvre pas cher, et croyez-moi que... Là, notre cité, elle est toute pourrie. Le fer à béton, il explose de partout. Normalement, il faut qu'il soit 2 à 3 cm à l'intérieur du béton. Là, comme il affleure avec le gel, ça pète. C'est logique. Mais si on veut gagner de l'argent sur le dos des villes ou de...
Ouais. Ben, les gens qui venaient nous voir, ils nous disaient « Mais on a l'impression que vous squattez le logement. » Oui, on le squattait par rapport aux infiltrations d'eau. Voilà, tout ce que je mettais là-bas. J'achète par exemple une commode à ma fille. Au bout d'un mois, elle est morte. Il fallait changer. Donc après, j'ai arrêté de faire des frais. J'avais fait les travaux à plusieurs reprises. Et après, j'ai arrêté de faire des prêts. J'ai dit, ça sert à rien, parce que vu qu'on fait les travaux et puis ça se dégrade, c'est pas la peine d'aller dépenser son argent pour rien.
Et, ma mère a dit qu'ils vont détruire les immeubles pour un contrôle des autres. Elle pense que c'est bien parce que les maisons, ils sont sales. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Par exemple, si il y a une famille nombreuse...
Pas beaucoup de pièces de chambre. Ça cher.
Et vous avez donc, j'imagine, entendu parler du plan de rénovation urbaine à Émile Dubois Malèbre.
Oui.
Et est-ce que vous avez un avis sur la question, déjà?
C'est bien. C'est bien, c'est surtout les logements, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Pour que les gens ils se sentent mieux chez eux, ils ont besoin de rénovation, ils ont besoin de quelque chose de nouveau. C'est comme un enfant. Quand vous l'élevez, cet enfant, par exemple, vous l'élevez toujours... par exemple, il a une chambre. Et toujours pareil. Et demain, par exemple, il va à l'école, il revient, il trouve un changement dans sa chambre, il y a un truc à changer. Lui, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Et je suppose que toute personne, ça ferait du bien. Ils ont fait les travaux là, ils ont fait les travaux là.
Et moi, ce que j'aurais aimé, c'était avoir une grande entrée. Parce qu'on n'a pas d'entrée. Et donc, je voulais qu'ils me ferment là et qu'ils m'agrandissent par là.
Ah oui, par là.
Et
manque de peau.
En fait, ils devaient tout me faire ça. Enfin, on avait vu avec l'architecte, on en parlait régulièrement. Et en fait, c'est mes voisins qui ont eu ce que je voulais et moi, j'ai eu autre chose. Mais bon, c'est pas grave.
Oui, puis une chambre en plus, ça, c'est normal.
Et on demandait ce qu'on voulait, en fait, parce que comme c'était test. Et puis c'est avéré après que
on a été gâtés au niveau balcon,
le balcon et la terrasse. On a été gâtés. Ils ont fait que ici, quoi, en fait, les terrasses. Normalement, tout le monde devait avoir une extension et comme ça avait coûté très très cher, ils n'ont pas poursuivi. Donc après, l'immeuble a été fait, mais beaucoup plus sommairement. Je pense qu'ils ont choisi, ils devaient réhabiliter cet immeuble-là. Donc ils ont commencé par notre entrée, c'est tout en fait. Et ça a commencé par tous nos appartements, tous les appartements ont été faits comme les gens aimaient. Il y a même des appartements qui ont été agrandis, donc des gens qui ont déménagé, on leur a pris 2 pièces. On a eu tout vraiment ce qu'on voulait.
Mais ils ont dû dépasser le budget.
Je pense qu'ils ont dépassé le budget.
Oui, puisqu'après, il y a eu
transformé certains appartements en très grands appartements. Il y en a un là au-dessus, au troisième, énorme. Hein. Et je pense qu'ils ont dépassé, mais ils ont dû faire une entrée test. Ils ont dit, on commence par cette entrée. Et puis voilà, ça a duré plus longtemps que prévu, hein, d'ailleurs, les travaux.
Ça veut dire que les architectes sont venus dans ce hall d'immeuble.
Oui, on a travaillé avec eux.
Et ils vous ont dit, voilà, vous avez fait une réunion où vous étiez obligé de venir.
On n'était pas obligés, mais ils sont venus à la maison aussi. Hein. L'architecte est venu assez régulièrement, on le voyait souvent. Hein,
oui, pour aller plus loin, pour répondre à votre question, ils nous avaient proposé. On n'était pas obligés de le faire.
D'accord. C'était mais une proposition. Ils ont proposé certaines
pour
choses.
Pour ça que je reviens sur le prix du loyer, parce que ça dépendait à l'époque, pour beaucoup de personnes, du prix du loyer.
Ben oui, il y a des gens qui sont plantés, pas restés justement parce que les loyers ont doublé.
Et il y a des gens qui sont partis
justement les loyers.
Et pourtant, des
doublé.
Gens qui gagnaient leur vie.
Mais enfin, nous, je pense que c'était particulier parce que comme il y avait les extensions à l'extérieur, notre appartement prenait beaucoup.
Si vous aviez si tu avais carte blanche pour cette rénovation, qu'est-ce que tu ferais à Émile Dubois? Qu'est-ce que tu imaginerais? Qu'est-ce que tu inventerais?
Les extérieurs. Beaucoup les extérieurs. Il y a beaucoup de choses qui sont cassées, on les voit de l'aquarium. On les voit, il y a beaucoup de choses qui sont cassées à l'extérieur, vers les fenêtres et tout ça. Un jour ou l'autre, ça va tomber sur des enfants, mais ils font rien.
Alors, tu ferais quoi avec ta baguette magique?
Moi, si j'étais là-bas, le PH, direct, on n'attend pas, j'envoie une équipe. Je demande des subventions, j'envoie une équipe. Allez me réparer là-bas, c'est dangereux. Une fois, il y avait des fenêtres cassées dans l'appartement du premier étage. Et tous les enfants, après l'école, ils passent juste en dessous. Mais c'était vraiment cassé. Juste un coup, et ça s'effrite et ça tombe sur eux.
On préfère détruire plutôt que d'analyser la raison pour laquelle ça ne marche pas. Vous voyez, on nous fait croire qu'il faut détruire parce que le logement est inhabitable. On nous fait croire qu'il faut détruire parce qu'il n'est pas bon sur le plan énergétique. Ou qu'il faut détruire parce qu'il y a une trop forte densité, et ainsi de suite. Et si vous regardez, tous les arguments sont faux. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais ce qui pollue le plus, ce qui encombre le plus les déchetteries, ce sont les déchets du bâtiment. Et démolir, ça coûte très cher écologiquement. Parce que démolir, il faut donc jeter une matière qu'on a transformée, trouver un endroit pour l'enterrer, pour faire une sorte de fosse, et après on la recoupe de terre, oublier ce qu'on a fait. Et en même temps, il faut reproduire une nouvelle matière pour construire un nouvel immeuble ou un nouvel équipement et soi-disant qui va être aux normes écologiques. Mais on ne fait pas le bilan général. On ne fait pas le bilan de ce qu'on a démoli, enterré, machin et tout. On ne fait que le bilan restreint sur ce qu'on a construit.
Donc, détruire pour reconstruire, ça peut être bien. Ça peut, s'ils font ce que j'ai vu, les jolis petits immeubles, ça peut être très très bien. Hein, mais je ne sais pas ce qui va être fait. Hein, c'est ça.
C'est ce qui est fait à la Courneuve. Et à la Courneuve,
parce qu'à la Courneuve, ils ont fait de très jolies choses.
Ils ont fait pareil.
Mais,
hein, mais au niveau du prix du loyer.
Oui, mais les loyers sont hyper chers.
Je ne sais pas comment font les gens pour
s'en
sortir.
Un appartement comme ça au début.
Oui, c'était 1200.
Les appartements étaient superbes quand ils ont écroulé là-bas, aux 4000, je crois qu'ils ont écroulé des immeubles. Ils ont reconstruit justement ce type de petits appartements comme ils devaient être faits derrière. C'est très très joli, mais alors c'est hyper cher. Quoi. Le loyer était de 1100 euros, je crois, pour.
Ça veut dire que ça change les populations.
Que ça change la population. Je pense que c'est peut-être le but. Hein. C'est
de passer, passer d'un loyer de 500 à 1200.
Non, mais je pense qu'ils veulent peut-être changer les populations. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Ça peut être bien. Moi, je pense que ça peut être très bien.
Ça
au contraire.
Peut être bien pour
qui? Ça peut être bien pour tout, pour tout le
pour
monde.
Pour les promoteurs,
surtout. Non, pas que pour les promoteurs, mais ça si. Peut être bien pour le quartier, ça peut devenir... Parce que le quartier, si on le laisse comme ça, dans 20 ans, ça va être même pas 20 ans, dans 10 ans, c'est un ghetto, hein, donc...
La charte de relogement, elle détaille tout un tas de critères qui seront des impondérables dans la gestion des personnes dont les logements vont être démolis et qui doivent être relogés. Donc, c'est tout un tas d'objectifs et d'impondérables qui sont tant de l'ordre du reste à charge pour la personne dans l'habitat qu'elle va retrouver, que de ses souhaits en matière de proximité géographique, de s'éloigner. Enfin, ça rentre très loin dans les détails. Par exemple, ouais, ça peut aller jusqu'à définir si on prend en charge le déménagement de la cuisine intégrée. Enfin, voilà, on rentre... Et ce qui est normal, en fait, parce que effectivement, à un moment, on démolit l'habitat des gens et ils doivent déménager. Donc, enfin, c'est aussi normal d'avoir un accompagnement qui est poussé à ce point-là. Évidemment, le droit de refuser des propositions. Alors, je ne veux pas paraître bisounours, donc je pense qu'évidemment, il doit y avoir quand même un moment, un nombre peut-être de choix limités. Enfin,
ouais, je suis plus sûre, j'aurais dit 3, mais j'en suis pas
que
certaine.
Que je redéfinisse, mais... donc voilà, donc ça c'est un travail de très longue haleine qui prend des années. Et en fait, tout le processus de relogement, pour finir, et les coûts induits sont entièrement pris en charge.
On n'a pas supprimé 390 logements, sachement en fait. On a déjà une obligation de reconstituer du logement social. La règle de l'ANRU, c'est un logement social démoli, un logement social reconstitué. Donc dans l'idée de la mixité sociale, l'idée c'est de ne pas reconstituer le logement social sur site. Mais au regard des contraintes d'Aubervilliers, enfin même du territoire de la Seine-Saint-Denis, nous on va reconstituer une partie des logements sur site. Et donc ce Demi du Bois, il y aura, je pense, 110 logements sociaux qui seront reconstitués dans le quartier. Donc, c'est un tiers de ce qui est démoli. Oui.
Donc il y a une charte de relogement qui s'applique nécessairement à chaque projet en rue, qu'on n'a pas le droit de reloger les gens par rapport à leur niveau de loyer de base, il faut qu'on respecte...
Donc, c'est ça garantit aucune augmentation de loyer ?
En fait, est-ce qu'on parle du loyer au mètre carré ? Est-ce qu'on parle du loyer effectif des gens ? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un dans un F2 et qui a 3 enfants, on ne pourra jamais, et ça existe, on ne pourra jamais lui attribuer un F2. Parce que légalement, s'il y a une composition familiale avec 2 ou 3 enfants, on ne peut pas attribuer un F2, et c'est bien normal.
Donc,
ce sera un F3 ou un F4, et donc on ne pourra jamais garantir d'avoir le même prix sur un F4. Donc voilà. L'État, sur la maladrerie, ils savent qu'il y a des gros problèmes sur le bâti, ils savent que en termes de sécurité, c'est un vrai problème parce que les services de police sont incapables de pouvoir intervenir dans la maladrerie. Ils ont un certain nombre de remontées. Et derrière ça, ils vont dire, attendez, mais nous, on veut bien mettre de l'argent, mais pour nous, les objectifs prioritaires, c'est de pouvoir construire des nouveaux logements, c'est de pouvoir diversifier, par exemple, le nombre de logements. Donc là, on est dans un quartier où il y a 90% de logements sociaux. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y en ait plus que 60. Donc, quel que soit votre programme, faut qu'à la fin, on ait rééquilibré en ayant construit du logement privé. Voilà.
Tout ça, c'est pas pour les habitants d'ici. En plus, il n'y a qu'un pourcentage qui se réduit de plus en plus de logements sociaux. Bon, c'est surtout de l'accession à la propriété, mais c'est pas pour les habitants du territoire. C'est pour les gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs.
De dire, en fin de compte, il y a peut-être une grande barrière sociale par ces logements qui existent, mais un moyen dans le Grand Paris de maintenir une population ouvrière, et donc les détruire, c'est bien reconnaître qu'on veut la chasser ailleurs. Donc c'est un leurre, il faut se battre contre. Détruire, c'est négatif. Construire, c'est positif. Réparer, c'est nécessaire.
Alors, la gentrification, ils n'aiment pas ça, nos élus. Hein. Ouais, mais c'est pourtant ça qui est posé. Mais même dans la rénovation urbaine, parce qu'on est avec un pourcentage beaucoup plus réduit de logements sociaux qui va se construire et d'accession à la propriété, qui va être plus important. Mais des populations qui sont aussi pauvres que les nôtres, ce n'est pas eux qui vont accéder à la propriété. On nous parle de parcours résidentiel, mais il n'est pas pour les gens d'ici. Enfin, ouais, moi, je trouve qu'il y a tout un discours là qu'il faut démonter, quoi.
Je voulais dire que... Oui, voilà, je voulais dire qu'il met plus de chambres. Par exemple, ma mère, elle a dit qu'on va bientôt déménager, c'est pas sûr. Elle a dit, le problème, c'est qu'à chaque fois, on doit payer les chambres. Nous, dans notre famille, on est 8, moi, je suis la 6e. on doit payer, par exemple, si tu veux une chambre pour toi tout seul, 8 chambres. Et ça coûte cher, ça.
Moi, je dis, c'est pas parce que c'est des HLM. Voilà, parce que les HLM sont répertoriés en disant, ouais, c'est des appartements, des panages en attendant. Mais non, ils devraient faire, des, comme dans certains endroits, des appartements en HLM, mais magnifiques. Les gens, ils sont contents d'entrer dans un appartement magnifique. Et puis même, ça pourrait même les aider à plus tard à investir dans cet appartement. Comme vous le savez, ils peuvent racheter l'appartement. Voilà, si on les met dans un appartement qui n'a pas été rénové, par exemple, c'est la personne qui doit le faire, d'accord, c'est vrai, qui propose 2 mois de loyer gratuit pour rénover votre appartement. Mais si la personne, elle ne peut pas le faire, faites-la rentrer, par exemple, surtout des mamans avec des enfants, faites-les rentrer dans un appartement où elles se posent carrément et en sécurité aussi.
Considérer qu'en détruisant, on va régler le problème. Non, en détruisant, on va repousser le problème, et on ne va pas le régler. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, les logements sont de bonne qualité, toujours mieux qu'un bidonville, et l'argent qu'on y met pour le détruire est largement supérieur à l'argent qu'il faudrait mettre pour le réparer, voire peut-être même pour le donner. On pourrait presque dire ces logements seront amortis, puisqu'on on a remboursé les emprunts pour les construire grâce au loyer des gens qui l'ont habité. Et donc, on pourrait dire que ces logements deviendraient une propriété sociale des gens qui l'habitent. Et ce n'est pas pour privatiser du tout le logement social. C'est pour, au contraire, faire du logement social un grand ensemble social où il y aurait des gens qui seraient responsables. Et donc, il y aurait une responsabilité dans le logement qu'ils occupent, qui pourraient d'ailleurs le transmettre à leurs enfants de manière régulière, et non pas quelquefois de manière cachée, comme on fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas céder son capital à quelqu'un. Et donc, on pourrait avoir des parts sociales, on pourrait être un acteur social pour transformer le logement social qui a été construit de manière trop technocratique.